Voilà, il y a ce mode, on a un stimulus qui arrive, et puis on a ce mode génétique, un auto-pilotage qui se met en place, qui entraîne tout de suite une réaction, un mécanisme très naturel hein, de protection, de défense, qui est soit ben, je me bats contre ce stimulus, je me taille ou je me tétanise. Et tout ça, c'est un mécanisme, c'est le centre amygdale qui va créer cette réponse automatique très instinctive et qui n'est pas forcément adaptée à la situation. Donc, ce qu'on essaye de, en tant qu'accompagnant, on a besoin aussi de prise de recul sur les situations, mais en tant que, pour tout le monde, c'est juste hyper, c'est un cran de plus en niveau de maturité. C'est de pouvoir créer cet espace entre un stimulus qui nous arrive et une réaction. Et donc là, plus pas juste se tenir à ce qui se passe au niveau de l'amygdale, mais arriver aussi à le processer d'une certaine façon au niveau du cortex préfrontal. Et donc là, on arrive à quelque chose qui est, avec cette prise de recul, quelque chose qui va être plus conscientisé, plus rentrer dans une écoute. On parlera d'écoute aussi après avec des écoutes, mais d'écoute d'empathie, et vraiment là pouvoir être dans une approche qui déjà passe de l'étape réactive à créative. Et cet espace-là, on peut le créer de plein de façons différentes, mais il faut pouvoir l'identifier pour se mettre en situation de stopper ce mode pilotage automatique. Vous m'arrêtez à tout moment où c'est de la force supplémentaire.
Un exemple là-dessus, je trouve intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean-François Nobel, ça veut dire quelqu'un, ça dit quelque chose, son nom peut-être. C'est un peu des personnes qui a beaucoup développé l'intelligence collective en France, Nobel. Et donc lui, il disait, dans les règles d'intelligence collective, si vous voulez, dans un collectif, dans une équipe, une des règles, c'est prendre une respiration avant de parler. Il ne faut pas être justement en mode réactif, bam, je parle. Et en fait, prendre une respiration, ça nous oblige à faire ouvrir cet espace. Et à lâcher ce qu'on allait dire. Et il y a quelque chose d'autre qui souvent, enfin parfois émerge. Et du coup, c'était marrant parce que dès qu'il parlait, souvent tout le monde faisait ça, donc tout le temps on parlait, c'était bizarre. Mais en fait, c'est un bon entraînement. Peut-être le faire intérieurement, mais cette invitation à prendre respiration.
J'ai un petit rex sur comment créer l'espace. Je ne sais pas si je peux le faire maintenant ou plus tard. Que ce soit en individuel ou en équipe, c'est pareil, de proposer une métaphore, la métaphore du feu orange. Qu'est-ce qu'on fait tous quand le feu passe à l'orange?
On accélère.
On accélère.
Non.
Mode automatique. Inviter les personnes à décélérer, à se poser, et puis à observer ce qui se passe en fait lorsqu'on est au feu orange. Enfin, voilà, utiliser une petite astuce pour faire le scan et puis créer un espace de créatif. Plus réactif.
Moi, c'est vachement bon. Ça dépend du stimuli. Des stimuli, parce que suivant comment les personnes sont câblées, tu parlais tout à l'heure de avec quel bagage est-ce qu'on vient. Suivant la constitution neurologique et de l'amygdale de chacun, l'espace va pas être si simple que ça à installer. Enfin, ça pour moi, c'est la théorie. Alors, dans la pratique, c'est. Reprogrammer une amygdale, c'est super compliqué. Et en plus, arriver à créer un espace pour stimuler le cortex préfrontal au lieu de l'amygdale.
C'est juste laisser un espace. C'est pas par rapport à.
Mais j'entends ce que tu dis.
C'est
mais
le réflexe de se dire attends.
Complètement. Mais en fait, suivant les réflexes de chacun,
ouais.
Même accueillir l'espace, c'est pas si évident que ça dans la constitution du stimuli d'amygdale. En fait.
Ouais,
je pense qu'on n'est pas tous constitués pareil. Et en fait, sur un stimuli identique, on va tous réagir d'une manière complètement différente.
C'est sûr.
Et il y en a pour qui l'espace va être inatteignable. En fait, je pense.
L'espace, c'est vraiment prendre un moment, c'est un instant, ouais. c'est un petit écart.
C'est un
temps de pause.
Un temps de pause, quelque chose
comme ça. Très court, mais un petit temps de
pause. Mais je pense que c'est pas simple pour tout le monde. En fait.
Et même sur l'amitié, on se prend le fonce à un moment donné, ça marche pas tous les coups.
Mais souvent, nos relations sont là, dans une. C'est le cortex, c'est quoi? Alors là, c'est le cortex préfrontal et là, c'est le cerveau reptilien.
Ouais,
donc, en mode cerveau reptilien, ouais. Mais même, voilà, la télévision, enfin, C'est ça la société, la culture dans laquelle on baigne.
L'endorphine.
C'est une culture réactive, c'est pas une culture créative. Et c'est, donc,
la dopamine.
On en parlera sur l'écoute, souvent on écoute pour répondre. On n'écoute pas juste en écoutant pour essayer de comprendre. Donc c'est vraiment comment on arrive à interagir différemment avec plus de qualité.
Il y a un intervenant qu'on avait vu à la Gilles Tour Toulouse et qui était venu à Caen un petit peu plus tard, Pierre Mourquen. Qui expliquait ça, effectivement, la bascule entre le reptilien et le néocortex, le fait de se couper, effectivement, d'être vraiment dans le reptilien. Et il venait toujours en conférence avec une bouteille d'un litre 5 qui était remplie d'un liquide dégueulasse, un genre de thé assez foncé. Et il y avait un espace que tu es un petit peu haut comme ça, entre le haut du liquide et le haut du goulot. Et en fait, systématiquement, dans son intervention, il était à un moment où il allait écraser la bouteille pour montrer justement que cet espace, eh bien, il fluctuait. Cet espace, en fait, était totalement différent d'un moment à un autre, d'une journée à une autre, et que systématiquement, durant toute la journée, on ne faisait que ça. On ne faisait que réduire, jouer sur l'espace qu'il y avait. Parce que le liquide, bah, en fait, bah, s'il est amené à déborder, bon, bah, il déborde. Ce débordement, c'était effectivement cette incapacité à basculer, et donc il y a plutôt dans le reptilien plus que dans le néocortex. Et c'est vrai qu'après, il vous a donné plein d'outils, mais c'est effectivement les outils de développement personnel au service du professionnel. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. Un jour ne fait pas l'autre. Une matinée, tu fais pas la même chose.
Alors, mon question là, c'est rapidement, individuellement, de sur l'activité de RAO, émotionnelle, s'il y a les émotions déplaisantes qui ont pu émerger et les pensées qui ont pu être associées à ces émotions. C'est de trouver une situation, on va l'utiliser après, donc c'est pas besoin d'être. Élaborer, pouvoir rester 2 heures dessus, mais c'est trouver une illustration de quelque chose qui a été déstabilisant, enfin, une émotion qui était plutôt déplaisante. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller faire une post-it juste pour s'en souvenir. D'intelligence positive. C'est ce que j'ai avant, il y a un aux États-Unis qui s'appelle Shirzak Shamir. C'est plutôt quelque chose qui a créé pour le coaching. Mais j'ai trouvé inspirant et donc c'est pour ça que je vous propose aussi. C'est dans ce mode, on a envie de réagir très vite. Hein, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est là où notre esprit peut être vraiment encombrant. Souvent, on est les meilleurs auto-saboteurs pour nous-mêmes. Donc, c'est ça que j'avais envie, dans un premier temps, d'aller explorer, de nous faire explorer. Donc, bon, derrière, on parle depuis ce matin de nos références, mais aussi de toute la psychologie positive. Les approches du comportement, la psychologie du comportement, tout ce qui est autour de la performance. En tout cas, de tout ça, il y a un pattern qui s'est dégagé, qui est autour de 10 facteurs qui créent en fait ce mode réactif et plutôt négatif, qu'il a appelé des saboteurs, et 5 facteurs positifs qu'il a mis sous l'ombrelle du sage, et qu'on reviendra aussi dans un deuxième temps. Donc dans un premier temps, je voudrais qu'on se concentre sur les saboteurs. Alors, dans son... Si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur le site, vous pouvez faire le petit test des saboteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé un langage très simple. Ça, c'est une leçon aussi. Il parle, il n'y a pas de termes compliqués. C'est très simple. Et a priori, ça, ça peut nous parler à tous parce que c'est des choses c'est vraiment de notre vécu, pas forcément pro, mais aussi perso. Donc, les saboteurs, ben, ils vont, c'est le côté reptilien dont on a parlé. Là, un stimulus qui arrive, il y a des saboteurs qui sont à l'œuvre. Avec l'objectif, c'est de se préserver, de se défendre, de survivre. Et derrière, ben, il y a des émotions qui vont pas forcément nous aider, qui sont de l'ordre de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité, des regrets, des reproches, voilà, des choses qui vont vraiment plutôt ne pas nous mettre dans une capacité positive pour avancer. Donc les saboteurs, c'est, alors là ils sont en anglais, mais vous aurez les fiches en français. Donc il y en a 9, et puis on a un juge universel qui se radine à chaque fois, qui va être auto-jugeant, mais qui va aussi juger l'autre, hein, qui va ramener sa fraise dans plein de situations. Mais au-delà de ça, on a quand même des saboteurs privilégiés qui vont se mettre là sur, on a comme Jimmy Cricket et on a plus et moins, ils vont se mettre sur notre épaule et puis on va avoir par exemple le contrôleur, hein, on est dans une situation qui va nous pousser à aller dans du hyper contrôle. On va avoir le plus fait plaisir, hein, et, on va essayer de socialement être le mieux positionné, que tout le monde nous aime autour. On peut avoir le restless, hein, il y en a peut-être quelques-uns qui ont ce saboteur-là, jamais se poser à côté, et il faut rester dans une dynamique très importante. Donc c'est ces saboteurs qui nous arrivent, qui ont le stimulus et qui nous entraînent à réagir d'une certaine façon. Et c'est intéressant de les identifier parce que c'est comme ça qu'on peut aussi les évacuer, en tout cas parfois même les personnaliser pour dire attends là mon gars tu te casses, hein. Ça peut être une aide pour voir ce qui se joue et qu'est-ce qui se joue en priorité au-delà du juge qui est à peu près dans pour tout le monde on a ce juge là, mais qu'est-ce qu'en priorité va se jouer pour nous totaliser dans certaines situations et nous faire réagir automatiquement.
Alors, stick clair, ça veut dire quoi stick?
C'est perfectionniste. Okay. Mais vous allez avoir tous les termes. Donc l'idée, c'est pour rester en binôme. Je vais vous donner les petites fiches avec les descriptions de ces différents saboteurs. L'idée, c'est avec la situation que vous avez en tête, hein, de revisiter qu'est-ce qui a pu être en jeu. Est-ce qu'il y a un de ces saboteurs qui ont pu être plus à l'œuvre que d'autres? Et essayer d'identifier ce qui s'est passé, puis après on passera à la phase, qu'est-ce qui pourrait se passer autrement, quel mécanisme on peut mettre en place pour faire ce shift. Ça vous va? Donc ça peut être, on a mis 20 minutes, mais une quinzaine de minutes pour que chacun puisse avoir la parole. Et je vais vous donner donc les différentes descriptions. Choisissez votre zone. Pareil, changez par rapport à tout à l'heure. Thank you.